L'actualité, on en parle avec Jean-Yves Breteau et son invité.
Et pour cette dernière émission de la saison, je reçois dans On s'en parle sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com Laurent Labiche, délégué départemental de la Sarthe de la Fondation Le Refuge. Bonjour Laurent Labiche.
Bonjour.
Avant de présenter un projet artistique que l'antenne sartoise propose aux jeunes cet été pour produire une exposition à partir de leurs propres photos, on va présenter un petit peu votre association. Le Refuge est une association connue de la communauté LGBTI+, comme peut l'être d'ailleurs Aide ou encore Act Up. La fondation existe depuis plus de 20 ans. Quelles sont les missions que poursuit plus spécifiquement la fondation Le Refuge?
Alors, c'est trois actions en particulier. Alors, la première action, c'est une ligne d'écoute sur laquelle les jeunes qui ont des questionnements ou qui sont en grande difficulté et pour un certain nombre mis à la rue ont un numéro d'urgence sur lequel les bénévoles répondent. Donc ce numéro d'urgence, c'est 7000 appels par an de jeunes qui sont ou en difficulté à la maison ou en dehors de leur domicile pour des questions d'expulsion de la part de leurs parents, ou bien qui sont sujets à des discriminations et qui nous demandent un petit peu des conseils.
Les mœurs semblent avoir évolué avec une meilleure visibilité de la communauté LGBTI+, les marches des fiertés se multiplient en France comme dans le monde, meilleure visibilité aussi dans des séries ou des films où les sentiments étaient dans un temps ancien un peu plus suggérés que visibles. Au demeurant, les derniers chiffres de SOS Homophobie sont parlants, ils l'indiquent, les personnes LGBTI+, sont toujours exposées à des rejets, des discriminations, des agressions.
Absolument. Alors ça, c'est aussi le fait que on sort du bois, on sort de la grande discrétion dans laquelle les personnes LGBT se mettaient directement. Et donc le fait d'en parler plus, ça questionne aussi des gens qui ne sont pas du tout ou concernés ou au fait du fait qu'on peut ne pas être hétéro sur la planète et s'exprime de façon très libre, parfois un peu choquante. Et c'est la deuxième activité que nous avons, c'est de sensibiliser aussi bien la jeune population que les adultes, puisqu'on fait également des interventions en milieu entreprise et en milieu scolaire, bien entendu, pour lesquelles ces interventions ont pour vocation d'expliquer c'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que d'être LGBTQIA+, parce que évidemment ça questionne beaucoup les gens qui sont pas du tout au fait. À partir du moment où on connaît, on n'a plus peur. Si on n'a plus peur, on est capable de discuter avec les gens de sujets pour lesquels c'est nouveau pour nous. Et du coup, on n'est plus dans l'exclusion, mais on est dans l'intégration et la compréhension du fait que tout le monde n'est pas comme nous-mêmes quand on se regarde dans la glace.
On rappelle qu'il y a eu une agression au Mans suite à la marche des fiertés, à l'entrée du festival Plein Champ. Oui. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut expliquer qu'on n'avance pas plus vers de tolérance, pas plus vers de tolérance, à défaut d'accepter la différence de l'autre?
Ouais, c'est une grande question. Je pense que le fait d'expliquer tout haut ce que tout le monde savait tout bas, ça tend le flanc à des gens qui n'ont pas envie d'entendre, pas envie de comprendre, qui sont sujets à aussi des foyers dans lesquels il y a l'hyper-masculinité qui s'exprime au quotidien, les moqueries, vous imaginez le droit des femmes dans l'esprit aussi des gens qui sont homophobes, il n'est pas tellement plus haut, et donc on se retrouve dans un manque de considération, et du coup quand on ne comprend pas, on est agressif et on a ou envie d'insulter, ou envie de regarder méchamment, ou carrément envie de taper si on est parti en soirée et que l'alcool ou la drogue aidant, les gestes sont plus rapides que le vocabulaire.
Accepter ce regard sur l'autre qui est différent de soi dans sa sexualité, à la limite, allez, on peut le comprendre chez les grands-parents, qui sont d'une autre génération, et à l'époque où c'était pas très visible, c'était même honteux d'être LGBTI, mais dans la nouvelle génération, comment on peut expliquer ça alors que Netflix, si on regarde Netflix par exemple, il y a dans toutes les séries pratiquement des situations LGBTI?
Oui, alors en fait, il faut aussi tenir compte de la provenance des différentes populations par rapport à leurs considérations.
C'est-à-dire que c'est une question de culture, de religion?
Il y a beaucoup. Évidemment, la culture et la religion sont les parts essentielles de l'éducation qu'on reçoit. Plus vous avez de d'aide à la culture, d'éducation, de vocabulaire, de lecture, de prise en considération d'un apport multiple, moi, vous êtes en rejet des différences. Finalement, le rejet homophobe, il fonctionne pareil dans le cerveau que le racisme, que la grossophobie ou que la handicapophobie. Quand on n'est pas concerné soi-même, on regarde un peu d'un air curieux. Et puis, si on est limité dans son vocabulaire, on critique et on insulte. Parce qu'on n'a rien d'autre qui nous vient à l'esprit.
Ouais, ce qu'on peut préconiser, c'est que chaque personne devrait avoir dans son entourage un ami, quelqu'un de sa famille qui soit LGBTI, comme ça on comprend mieux les choses.
Alors, à la décharge de tous ces gens-là, je pense que, effectivement, vous avez raison, si on n'est pas concerné soi-même, on n'y porte pas forcément un grand intérêt ou une grande attention.
Ça, c'est comme le handicap, d'ailleurs.
Mais oui, évidemment. Et Dieu sait si c'est important de... Mais comme le racisme, en réalité. On entend tellement de gens qui nous disent « Mais oui, j'ai des amis homosexuels. Ah oui, mais moi, j'ai des amis noirs. » Enfin, c'est...
Et qui sont presque fiers aussi,
mais oui, on coche des cases. Mm-hmm. Et en fait, finalement, sans ironiser là-dessus, je pense que c'est bien aussi de cocher ces cases parce que ça nous permet à nous de nous rassurer sur le fait que la différence, c'est pas systématiquement de l'exclusion dans notre esprit.
En tout cas, ce qui est dramatique, c'est que cette exclusion, ce rejet, on peut les vivre à l'école, au travail, parmi ses amis et même dans sa propre famille.
Ouais. Absolument. Et là, quand vous me parlez de ça, ça nous renvoie vers la troisième action et l'action pour laquelle le refuge a été le plus médiatisé et connu, c'est l'hébergement des jeunes. Donc cet hébergement, c'est une délégation qui est une délégation d'hébergement. C'est une délégation qui offre 10 places minimum d'hébergement dans des appartements dans lesquels les jeunes sont en colocation, même si ce sont pas eux qui paient le loyer, mais ils sont en situation d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils font leur repas, ils font le ménage, ils font leur lit et ils ont une chambre individuelle chacun, mais des espaces de vie qui sont communs, comme vous seriez en coloc avec des potes, quoi.
Voilà, ça vient apporter de l'aide à ceux qui sont en détresse, qu'on a mis à la rue, tout simplement, parce qu'il y a des parents qui ne savent plus aimer leur enfant dès lors qu'ils apprennent qu'il est homosexuel, bisexuel.
Ça, c'est tout à fait...
Comme quoi, l'amour, ça tient un peu de choses, hein.
Alors je sais, sincèrement, moi je suis pas psychologue, donc j'ai du mal à dire que c'est l'amour qui disparaît, mais en tout cas c'est un rejet immédiat. Mmh. Alors le rejet immédiat, finalement, ça peut être salutaire pour certains jeunes qui font leur coming out à 18 ans et qui se retrouvent dehors avec un sac de sport. Donc vous imaginez bien qu'à 18 ans, on sait pas faire à manger, on sait pas tenir un appartement, on n'a plus d'argent, donc on est incapable de rester scolarisé, de s'acheter des fringues, de se laver. Donc très vite, on estime qu'en 3 mois, on perd un jeune. Quand il est à la rue. Mmh. Donc, fort heureusement, ils ont d'abord des amis et puis ensuite, peut-être de la famille qui veut les accueillir. Mais ces jeunes-là, ils ont la ligne du refuge pour essayer de leur trouver une solution rapidement. Par ailleurs, certains jeunes sont simplement torturés à la maison. C'est-à-dire qu'on leur interdit le repas familial, on leur interdit la douche à la maison, et on leur demande de vivre, pour certains, dans le garage, tout simplement. Mmh. Donc, ces jeunes-là, quand ils ont 18 ans, ils prennent le parti de quitter leur domicile sans avoir vraiment de solution, mais pour plus subir la discrimination intrafamiliale, qui est sans doute la plus douloureuse à suivre.
Alors, on va le dire, c'est des parents quand même un petit peu odieux, et on ne le dira jamais assez, le suicide, les tentatives de suicide et les pensées suicidaires sont beaucoup plus fréquents dans la population LGBTI, en particulier, notamment chez les plus jeunes. Oui. Justement parce qu'ils subissent ce rejet, ils subissent cette discrimination. Et c'est déjà pas facile pour eux, je dirais, d'accepter à un moment qu'ils soient différents des autres.
Alors il faut quand même se dire aujourd'hui que les jeunes savent qu'ils ne sont pas seuls. Contrairement à 2 générations en arrière, la génération de mes grands-parents, s'ils devaient avoir été homosexuels, je pense que ça aurait été un grand secret et une incapacité à le vivre. On sait qu'il y a également beaucoup d'hommes adultes qui se retrouvent à se suicider alors qu'ils sont bons pères de famille dans une vie qui paraît rangée et très hétéronormée, parce que en fait, ils sont toujours dans le placard et incapables d'en sortir pour des questions professionnelles ou familiales, etc. Et puis, ces jeunes aujourd'hui, ils ont quand même plus de chance, c'est qu'ils sont capables d'aller trouver des grosses associations comme le centre LGBT Homogène, qui est aujourd'hui un centre hyper connu au Mans et dans lesquels il y a également des bénévoles qui sont très bienveillants et capables d'accompagner et d'accueillir ces jeunes. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Et puis, il y a la Fondation Le Refuge et plein de gens bienveillants. On a identifié aussi dans les établissements scolaires des adultes qui sont référents et bienveillants et qui sont des adultes repères pour ces jeunes.
Voilà, il y a Brokeback Mountain, entre autres le film qui vient de repasser récemment sur France 2, qui explique bien cette difficulté aussi de par certaines professions où on n'a pas le droit d'afficher ses préférences sexuelles.
Bah oui, le milieu social est super important. Vous pouvez être 4 sup dans un secteur d'activité où c'est une honte d'avoir un fils homosexuel. Vous pouvez être ouvrier et être dans un milieu très masculin et donc pas être capable d'exprimer que vos enfants ou vous-même êtes homosexuels. Donc ces gens-là sont en général se cachent leur famille, cachent leur vie et puis cachent leur homosexualité si on parle de ça.
Et quelquefois on est même obligé de s'exiler de là où on vit, par exemple pour aller à Paris ou dans des grandes villes, parce que vivre sa sexualité dans une commune, ce n'est pas simple, même dans une petite ville, et que entre autres c'est encore moins simple quand on vit dans un quartier avec un métissage culturel et des religions qui ne tolèrent pas l'homosexualité.
Les quartiers, quand vous êtes queer, puisque c'est le nouveau, la nouvelle appellation généraliste qu'on peut utiliser de façon pour déterminer, pour qualifier entre guillemets la communauté LGBTQIA+, c'est un peu compliqué à dire, donc maintenant on parle de communauté queer. Quand vous êtes queer dans les quartiers, vous avez gagné un peu au loto, c'est-à-dire que c'est la double discrimination, c'est le délit de faciès, c'est finalement être du mauvais côté de la masculinité, puisque bien souvent c'est plutôt les garçons qui vont être harcelés. Les filles ont plus capacité, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que moi je suis un homme qui parle des filles, et donc est-ce que j'ai tout à fait la légitimité de le faire, mais en tout cas, les filles ont plus vocation à être capables ou de se cacher ou d'être planquées par la famille, parce qu'elle ne va pas porter le nom dans sa descendance, c'est plutôt le garçon qui s'occupe de ça. Pour un papa, c'est remettre en cause sa propre hétérosexualité que d'avoir un garçon homosexuel. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent dans l'esprit des gens. Et puis, les copains, quand vous demandez en classe, on a fait tout le collège Berthelot au niveau des secondes, et à chaque fois qu'on demande aux jeunes, dis-moi, qu'est-ce que tu fais si ton pote te dit au détour d'une conversation, tiens, je suis homo, je voulais t'en parler, 99,99% des garçons nous disent, je lui parle plus, pour pas être vu comme un homosexuel moi-même, et puis pour que le gars ne me drague pas. Et on leur explique simplement, dis-lui si toi tu te sens hétéro, que t'es hétéro, donc ça calme tout de suite la situation qui te donne envie de partir en courant parce que t'as peur d'être dragué et t'es mal à l'aise avec ça, et puis surtout si toi t'es hétéro, il n'y a aucune raison que les autres te voient comme un homosexuel, si les gens te le disent, tu dis que toi c'est juste ton pote.
Allez, je vais être provocateur, moins qu'on ait peur d'apprécier d'être dragué. Cet été, on va se dire les choses, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. Cet été, le Refuge propose au Mans un projet artistique qui se mènera avec des jeunes queer, justement, de 15 ans à 30 ans, avec un photographe queer. Ça s'intitule Lumière queer du Refuge, une expo qui sera visible à partir du 28 août. De quoi il s'agit ?
Alors, écoutez, on a fait une réponse à un appel à projet de l'État. Et donc, on a eu l'heureuse surprise d'être retenu sur notre projet. Il s'agit de créer une exposition qui a lieu donc le 28 août, comme vous l'avez dit. Une exposition photo de l'artiste Makoto Shil Okubo, qui est un photographe queer, qui est un des 12 photographes, 12 artistes à suivre d'après la presse notamment, qui s'exprime dans la liberté, l'expression de la liberté au travers les mouvements festifs et non festifs, puisque c'est pas exclusivement là-dedans qu'il s'exprime. Bref, c'est quelqu'un qui a plutôt une très bonne cote en tant que photographe et qui a accepté notre projet, qui était de dire on va créer une correspondance entre des jeunes plus particulièrement des quartiers et aussi des jeunes du refuge, bien entendu. Cette correspondance va donner vie à un partage de photos entre 20 photographies sélectionnées par Schill et les jeunes, les 20 meilleures photos que les jeunes vont avoir pris de leur vision de la liberté d'expression et la liberté de vie en tant que queer aujourd'hui en 2025.
Ça, ce sera le fil rouge.
Mais alors le fil thème. Rouge, c'est à Makoto de le délivrer et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire demain à l'occasion d'une visio à 16h avec les jeunes qui sont dans la partie.
Donc le 17 juillet.
Exactement. Et donc ça, ce sera le lancement du programme photo pendant lequel on va remettre des appareils photo jetables aux jeunes. Ensuite, le 15 jours plus tard, donc on va renvoyer les appareils photo à Schill qui va travailler sur les photographies. Et ensuite, fin août, on aura cette merveilleuse exposition dans la salle du Guébernisson.
Voilà, qui est du côté des Sablons.
Ouais, c'est ça, qui fait pratiquement face à l'abbaye de l'Épau et puis dos au lac, ou l'inverse en fonction du sens où on se tourne.
Voilà, on arrive vraiment à la deadline de l'inscription, puisque c'est demain que vous remettez les appareils photos qui sont jetables pour prendre des photos qui seront peut-être choisies par l'artiste queer. Est-ce que déjà il y a des jeunes au Mans qui se sont inscrits dans cette action et est-ce qu'on peut encore s'y inscrire?
Voilà, on peut encore s'inscrire. Il suffit d'écrire à notre adresse mail que je peux donner tout de suite, sarthe@le-du-6-refuge.org. Donc en écrivant à cette adresse, vous dites, voilà, je veux participer. Il nous faut, nous, votre mail. On vous enverra le lien pour participer à la visioconférence. Et ensuite, à l'issue de la visioconférence, vous pourrez venir prélever un appareil photo de 39 poses. Donc, autant vous dire que vous pouvez travailler aussi en équipe, en groupe, avec d'autres jeunes, pour avoir chacun une séquence de 10 photos. Ce qui est intéressant de pas travailler en numérique, c'est de choisir le temps, le moment et ce qu'on veut exprimer au travers de la photo et pas juste canarder pour trouver une photo qui nous semble avoir du sens. Donc c'est un peu du travail de réflexion avant de déclencher la photo.
Donc ça sera dit justement à travers toutes les visios qu'il y aura.
Absolument.
Avec l'artiste.
Ouais. Exactement. Donc on a la chance que Makoto se rende disponible à 3 reprises, dont la journée complète de l'exposition, puisque l'exposition sera l'occasion pour les jeunes de passer la journée avec lui, de monter l'exposition avec lui, c'est-à-dire que le matin et jusqu'à la fin du déjeuner, on sera seul avec Makoto et les jeunes pour discuter. Makoto va continuer, lui, à prendre en photo les jeunes puisqu'il tient à archiver le présent. C'est sa façon poétique d'expliquer comment il veut travailler avec les jeunes, de sorte que sur une manifestation comme celle-là, il ait aussi des traces du montage de l'exposition et pas seulement de l'exposition en tant que telle.
Cette action bénéficie du contrat de ville, d'une aide du contrat de ville, donc de la métropole.
Oui.
Donc c'est important qu'une collectivité soutienne finalement une action contre les discriminations.
On était enchantés d'abord d'avoir été accueillis par les délégués préfectoraux qui nous ont accompagnés pour parfaitement bien exprimer notre projet. Parce que c'est un peu compliqué en réalité. C'est beaucoup de boulot. Faut pas
le contrat de ville, oui, c'est des dossiers.
C'est
la simplification pour l'instant. Il faut la revoir.
Puis on n'est pas coutumier du fait.
Voilà,
et en fait, on a été retenu vraiment tardivement, donc ça explique un peu qu'on soit un peu à pédaler sur la fin, mais c'est normal. Mais c'est vrai qu'on est bien accompagné, typiquement Timon Bayol et notre interlocuteur pour la ville. Et il suit ça d'un œil bienveillant.
Voilà, cette action, elle est quand même dans le cadre de la politique des quartiers de la ville.
Oui.
Est-ce que, par exemple, les jeunes des quartiers se sont saisis de cette opportunité d'aller photographier? On parlait de la difficulté d'être queer dans les quartiers en fonction de ses parents, de sa culture, de sa religion.
Est-ce qu'on a envie de sortir du bois quand on souffre de cette double discrimination? C'est-à-dire, je ne veux pas être exclu de ma communauté avec laquelle je vis et que je croise tous les jours. J'ai en même temps envie de pouvoir exister. Donc, nous, on est à la disposition de ces jeunes, je vous dis, par mail, pour qu'ils viennent nous rencontrer. On va travailler avec eux et puis ils pourront participer à l'opération sans pour autant se mettre un drapeau sur la tête ou dans le dos pour pouvoir participer à l'opération.
C'est ouvert à tous les jeunes ou faut être absolument queer ?
Alors, l'exposition photo, elle va être pour la réaliser. Hein, il faut évidemment être queer. En revanche, pour aller voir l'exposition, bah là, il n'y a plus d'histoire ni d'être queer, ni d'âge, ni d'être photographe. Le tout, c'est de venir voir l'exposition. Elle se déroule de 16h à 19h30 le 28, ouverte à tout le monde. Et bah, vous venez sans rien, on se charge de l'émotion.
Voilà, c'est important parce qu'il faut toujours rappeler que vous avez souvent parlé de l'expression « sortir du bois » et que dans le bois, il y a des loups. Donc c'est bien de sortir aussi de temps en temps.
Absolument.
Faites les petits chaperons rouges. Voilà, pour terminer, il y a l'antenne départementale hein, du refuge qui s'est mise en place il y a maintenant 2-3 ans.
Ouais, il y a 2 ans et demi précisément.
Voilà, vous en êtes où dans votre installation et par rapport à vos objectifs ?
Alors, nos objectifs, ils sont assez clairs. Ça fait 2 ans et demi qu'on s'est lancé. Nous sommes maintenant 10 bénévoles. Beaucoup de gens actifs parmi les bénévoles qui sont constitués ou de queer adultes ou de jeunes ou de parents, parce qu'on a aussi la population de parents qui est hyper intéressée par cette cause et qui sont des alliés à la cause.
Et puis que des parents, ça peut aider des parents à comprendre aussi.
Mais bien sûr, mais nous, moi, j'ai très souvent des parents qui me disent « Ah oui,
qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que notre fille, notre fils devienne comme ça ?»
Oui,
la culpabilité de l'éducation.
Est-ce que c'est à cause de sa mère qui est trop aimante ?
Oui, on entend ça aussi, oui.
Alors, c'est la faute de personne, hein, vous savez, c'est pas un choix, c'est vraiment pas un choix. Donc, c'est comme ça. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir un local d'ici la fin de l'année. Mmh. Et puis, fin 2026, c'est d'ouvrir notre délégation à l'hébergement. Au jour où on ouvrira à l'hébergement, on aura un travailleur social à temps plein et on aura au moins entre 15 et 20 bénévoles.
Voilà, on se souvient de ce projet qui a été mis en place dans le cadre d'une marche des fiertés au Mans sous la présidence de Michel Maillet, qui était à l'époque le président du centre LGBTI.
Que je connais très bien.
Il y a Nicolas qui était à l'époque le responsable du refuge du côté de Toulouse.
Oui, c'est ça.
Les souvenirs sont bons. Ça a mis du temps quand même à se mettre en place.
Oui, alors il y a eu une phase un peu de hoquet sur l'organisation et la façon dont les délégations devaient être représentées. Aujourd'hui, la direction générale du refuge est très claire par rapport aux délégations. Elle nous structure, elle nous encadre vraiment très fortement pour aussi qu'il y ait une parfaite homogénéité de ce que le refuge en tant que tel souhaite dérouler au niveau national et surtout qu'il y ait un très bel accompagnement pour que les bénévoles soient vraiment bien formés. Aujourd'hui, c'est clair et Michel, dont vous parliez, c'est quelqu'un que je vois régulièrement à l'occasion de rencontres que j'ai avec l'association Homogène.
Voilà, Michel Maillet qui a beaucoup fait avancer hein, pour
oui,
la cause
absolument.
LGBT au Mans. Il faut le dire, au même titre que certains de ses prédécesseurs.
Tout à fait.
On parlait du centre LGBT, il y a un lien justement de travail commun avec le centre LGBT et le refuge.
En fait, de plus en plus, moi déjà quand j'ai créé la délégation en Sarthe, j'ai pris contact dès le premier jour avec Homogène, de sorte que ils nous voient pas comme un concurrent ou comme un doublon de ce qu'ils souhaitaient mettre en place. Alors bien entendu, il y a des choses sur lesquelles on est partenaire où on délivre les mêmes choses, par exemple les interventions en milieu scolaire. Maintenant, on ne les fait pas de la même façon exactement, et surtout on est très complémentaires, c'est-à-dire qu'on va être capable de se partager, s'il le faut, des bénévoles pour dérouler les interventions, parce que ça nécessite beaucoup de temps de bénévoles. En revanche, on arrive, nous, derrière l'association Homogène, par exemple, pour héberger des jeunes. Homogène a un dispositif qui s'appelle Au Moment, qui permet de mettre à l'abri tout de suite un jeune qui serait mis à la rue ce soir et qui n'a aucune solution. Donc, ils vont être capables de le mettre à l'abri immédiatement dans un hôtel, par exemple. Et puis, nous, on arrive derrière avec nos contrats, c'est-à-dire que les jeunes qu'on va être capable d'héberger au niveau national, ils sont sous contrat et ils ont autant d'obligations que nous, on en a vis-à-vis d'eux pour les remettre en selle et puis faire en sorte qu'ils aient un projet de vie.
Comment on fait si on est un jeune à l'écoute et qu'on a des difficultés pour vous contacter ?
Eh bien, on appelle le numéro de la ligne du refuge. Donc, c'est le 06 31 59 69 50. On peut même envoyer un SMS et c'est ouvert 7 jours sur 7.
Voilà, et nous, on le redit, voilà, Radio Alpa a été à l'origine hein, de la création de Homogène. À l'époque, c'était un collectif d'associations qui voilà, va bientôt fêter, je crois, ses 30 ans.
Ses 30 ans, absolument.
Voilà, et que Radio Alpa, dans le cadre d'éducation populaire que porte le projet de la MJC Prévert, voilà, les personnes qui souhaitent justement poursuivre l'initiative d'Arcadia, qui a été cette émission qui a créé Homogène, si des jeunes veulent venir faire une émission pour parler de la cause LGBTI, sont bien sûr bienvenus sur Radio Alpa et on peut se contacter en appelant le 02 43 23 32 41 ou encore envoyer un mail à bonjour@radioalpa.com.
Eh ben merci pour cette invitation, merci pour eux.
Merci Laurent Labiche de votre participation à notre émission. On rappelle que vous êtes le délégué départemental de la Sarthe.
Bénévole, hein.
Bénévole, bien sûr, de l'association Le Refuge, oui, parce que vous êtes artisan dans la vie.
C'est ça, exactement.
Bon voilà, vous êtes artisan de la bonne cause.
Oui. Tout à fait.
Merci à Evan Goetz pour la réalisation technique de cette émission. Bonnes vacances, Evan. Et puis, bel été à celles et à ceux qui nous écoutent. Et surtout, prenez soin de vous.